UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est le prix à payer pour entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, c'est Michaël qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, Annabelle nous donnera des conseils pour être un couple de foi. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Hello à tous. Bonjour.
Hello, Evelyn.
Ça va bien?
Ça va toi?
Ça va très très bien. Annabelle, tu es accordée au décor, c'est merveilleux.
Je sais, c'est moi, bonjour chez vous.
Ensemble, vous êtes bonjour.
J'aime tellement l'émission, tu vois, que je porte les couleurs de l'émission.
Oh, wow. C'est beau.
T'es fière de moi?
Je suis très fière de toi, tu es ma chroniqueuse préférée. Ne le dis pas aux autres.
Ils t'écoutent pas de toute façon.
Non, ça je sais.
L'émission va être longue.
Quoi? Et voilà. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler du prix à payer. Il y a un prix à payer pour entrer dans ces plans que Dieu a formés sur notre vie, dans cet appel que Dieu a formé sur nous. Et le prix est plus ou moins grand selon nos vies, selon de là où on vient, selon la grandeur de notre appel. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Chérie, le titre de ta pensée est « Seigneur, permets-moi d'abord ».
Oui, ces paroles, on les voit dans Luc au chapitre 9. « Seigneur, permets-moi d'abord ». C'est les paroles qu'un jeune homme va répondre à Jésus lorsque Jésus va l'appeler et va lui dire « Suis-moi ». Ce jeune homme va dire « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père ». Jésus va lui répondre « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu ». Imaginez quelle opportunité cet homme avait. Ce jeune homme, le Seigneur Jésus, lui offre de devenir un gagneur d'âme formé à ses pieds. Et la Bible laisse croire, sous-entendre que cet homme n'est pas entré dans sa destinée à cause de trois petits mots qui sont lourds de conséquences. Père, mais moi d'abord. Frères et sœurs, tellement de fois nous sommes comme ce jeune homme. Et le Seigneur nous appelle face à l'urgence de son appel, face à l'urgence de son invitation, face à l'urgence de la prière, face à l'urgence de la consécration, face à l'urgence de l'évangélisation, face à l'urgence de ce qu'il a mis sur ton cœur, face à l'urgence de cette action que tu dois poser, ces actions que tu dois faire pour l'évangile, nous répondons, Seigneur, permets-moi d'abord. Permets-moi d'abord de terminer mes études, Seigneur. Permets-moi d'abord de me marier. Permets-moi d'abord d'avoir une belle maison. Permets-moi d'abord de gagner plus d'argent. Permets-moi d'abord d'arriver à une autonomie financière. Permets-moi d'abord de régler ce problème. Permets-moi d'abord de finir la scolarité de mes enfants. Et ainsi de suite, jusqu'à permets-moi d'abord d'arriver à la retraite. Et finalement, les années passent. Et la triste réalité, c'est que on meurt au cimetière, on emporte au cimetière avec nous cet appel que Dieu avait mis sur notre cœur à cause de ces trois petits mots. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que en fait, on est en train de, par ces petits mots, de rentrer dans le jeu du diable, parce que le bon moment qu'on attend n'arrivera jamais. Pour la chair, le bon moment n'arrivera jamais et le diable le sait. Et il nous fait entrer dans ce jeu qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire remettre à plus tard l'appel de Dieu, l'invitation du Seigneur Jésus. Et on voit que, à travers cette histoire, même si la raison de ce jeune homme était légitime, l'enterrement de son père qui était peut-être planifié dans quelques jours, on voit que cette raison est très légitime. Mais le Seigneur a permis cette anecdote, je le crois, il a permis qu'elle soit écrite pour nous montrer qu'il n'y a aucune bonne raison valable, quelle qu'elle soit, qui fait qu'on va placer une chose, quelle qu'elle soit, aussi légitime soit-elle, avant la volonté du Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, si réellement nous avons fait de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie, ça veut dire littéralement que notre vie ne nous appartient plus, mais qu'on la lui a donnée. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous sommes devenus la propriété de celui qui est devenu l'autorité, le suprême, le Seigneur de notre vie. Nous lui avons donné notre vie. Et lorsque nous résistons à son appel, ce n'est pas à un homme qu'on résiste, mais c'est à celui à qui nous avons fait le jour de notre conversion, cette confession, c'est « Tu deviens Seigneur de ma vie. Nous ne pouvons pas lui dire non. Frères et sœurs, tellement de fois, nous tordons, nous déformons ce que le Seigneur Jésus dit. Il n'a pas dit à ce jeune homme, « S'il te plaît, si tu veux bien me suivre, viens, suis-moi, je te formerai, je ferai de toi un gagneur d'hommes et tu iras annoncer l'Évangile. » Il a dit « Suis-moi et va annoncer le royaume de Dieu. » Nous, nous transformons tellement de fois les commandements, les ordonnances, les ordres du Seigneur, parce qu'il est Seigneur, en propositions et suggestions. Si ça te plaît, si tu le veux, mais le Seigneur, jamais, quand il nous donne, il nous parle, il nous fait des suggestions, des propositions, ce sont toujours des commandements. Et souvenez-vous de ceci, une désobéissance, une obéissance reportée est une désobéissance. Et la désobéissance est un péché. Imaginez-vous un parent qui dit à son enfant, « Va ranger ta chambre parce qu'elle est en désordre. » Et l'enfant, il se dit en lui-même, « Je vais le faire plus tard, lorsque j'aurai du temps, parce que là, j'ai d'autres priorités. » C'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Disons-le tel que c'est. J'aimerais finir en vous disant qu'il y aura un prix toujours plus ou moins lourd à payer pour répondre à l'appel de Dieu. Et ce prix sera toujours le même. Le renoncement à notre volonté pour faire la volonté du Seigneur. Sa volonté est prioritaire à toute autre chose, car il est Seigneur de notre vie. Nous existons pour lui, nous vivons pour lui, nous lui appartenons. Et un jour, il dira devant son Père et devant ses anges, « Ils sont miens, ils m'appartiennent. » Et on doit être, quand le Seigneur nous appelle, quand il met cette urgence sur notre cœur, cette invitation, ce commandement, on ne doit pas être comme ce jeune homme à dire « Permets-moi d'abord », mais on doit être comme Pierre et Jacques, et André, pardon, Pierre et André, que le Seigneur a appelés. Et le Seigneur leur a dit la même chose. « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et regardez bien ce qui est écrit. « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. » Frères et sœurs, ne répondons plus jamais à celui à qui nous avons donné notre vie et fait de lui le Seigneur de notre vie. Ne lui répondons plus jamais. « Seigneur, permets-moi d'abord. » Mais disons-lui plutôt immédiatement, « Seigneur, je vais poser un acte d'obéissance. Je vais faire un premier pas d'obéissance et faites ce premier pas d'obéissance, quel qu'il soit. Peut-être une prière, peut-être une consécration plus grande, peut-être vous commencez à vous former, mais surtout, réagissez immédiatement à l'appel de Dieu. Ce n'est pas à un homme que nous répondons, mais c'est au Seigneur de notre vie, le Seigneur Jésus-Christ.
Amen, amen. Merci beaucoup. Ce sont des messages qui ne sont pas forcément très populaires, hein, le renoncement à soi. Généralement, on n'aime pas forcément entendre ce genre de message parce que ça vient un peu mettre le doigt sur certaines choses. Tous, on écoute ce genre de message et puis on pense à une chose, on pense à une autre. Et puis, on préfère les messages qui nous parlent de succès, qui nous parlent de prospérité, de bénédiction, de s'améliorer, d'être plus comme ci, plus comme ça. Mais en réalité, le message du renoncement à soi est le premier message de l'Évangile, parce que dès le moment en fait où on prend cette décision de marcher avec le Seigneur, de lui donner notre vie, c'est un renoncement à soi. Et je vais vous le prouver avec le verset du jour qui est dans Luc 14 au verset 33. Oui, Annabelle, tu rigoles. « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, à tout ce qu'il possède. » Alors, est-ce que ça signifie que quand on vient à Christ, on vend notre maison, on vend tous nos biens, on laisse nos enfants à l'orphelinat et on abandonne notre mari et notre femme et on suit Christ? Non, pas du tout. Non, Jérémie. Non, c'est pas ça que ça signifie. Mais ça nous parle ici d'un renoncement de cœur. On se donne tout entier. On est prêt à tout sacrifier, à tout perdre pour suivre le Seigneur. Et s'il y a certaines choses dont on doit se débarrasser, si on doit peut-être changer de pays, si on doit peut-être renoncer au fiancé ou à la fiancée avec qui on pensait se marier, ben on y renonce parce qu'on donne tout, on donne toute notre vie entièrement au Seigneur.
Et moi, j'aime cette notion du renoncement dans les paroles de Jésus.
Oui, parce que tu aimes ce message sur le renoncement.
Ces paroles sont présentes et en fait, Jésus ne c'était une grande partie de son enseignement. Mm. Je pense que ça, en fait, c'était la fondation.
Oui.
Mm. Et sur cette fondation, bon, il construisait, il bâtissait, il parlait de divers sujets. Mm. Mais ce genre de versets, on les retrouve partout, en fait, dans les évangiles.
Oui. Ouais.
Si quelqu'un, par exemple, met la main à la charrue, mais il se retourne en arrière, il n'est pas bon pour le royaume de Dieu.
C'est le verset qui suit après que ce jeune homme ait dit « Laisse-moi d'abord », c'est le verset suivant. Mm.
Si quelqu'un ne renonce pas à son père, à sa mère, même à ses enfants, pour moi, il n'est pas digne de me suivre. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, il faut que la graine de blé tombe en terre et qu'elle meure.
Celui qui perd sa vie à cause de moi.
Annabelle, on ne peut plus, arrêtez.
Tu dois renoncer, Annabelle.
Non, mais j'ai le prédicateur à la maison.
Et en fait, c'est
une fondation.
Renonce à ta vie, ma femme.
Ça doit être une fondation dans la vie, le renoncement. Hein, parce qu'en fait, c'est ce renoncement aussi qui va nous donner une véritable joie.
Oui.
Tu as parlé de ces messages auxquels on aspire parfois dans les églises de prospérité, etc. Mais la véritable prospérité, on le voit avec le jeune homme riche, c'est pas celle de l'argent, c'est celle de connaître Dieu. Et quand on connaît Dieu, qu'on fait passer Dieu en premier, là, il nous rend prospère, mais pas une prospérité
comme
on peut l'imaginer, ou naturelle. C'est une prospérité divine, où on peut être comme Joseph, et il nous arrive des mauvais coups, on nous fait du mal, injustice, mais finalement, il nous fait prospérer. Ou alors, comme Isaac, il nous fait semer en plein désert, en pleine famine, nous récolte. En fait, on entre dans le surnaturel.
Ouais.
Le renoncement, c'est une bénédiction. Mm. Pas sur le coup, ça paraît triste, mais après, ça, c'est vraiment une bénédiction.
Mm-hmm.
J'ai de quoi à dire, Evelyne.
Ben, ça tombe bien, on attend tout ce que tu parles.
Qu'est-ce que Jérémy a dit, c'est exactement ça. Et puis tu as dit, ben, moi, tu vois, personnellement, j'aime pas des messages forcément de la bénédiction. Je crois que c'est biblique, Dieu veut nous bénir. Mais tu vois, non, mais je suis sérieux.
Je suis d'accord.
T'as
les bons chroniqueurs, là, pour l'émission.
J'ai bien choisi, hein.
Je suis pas, je veux dire, je me crois pas à un niveau, mais c'est pas ça qui fait que ma foi est vivante. De renoncer à soi-même, ça va se passer dans l'intimité avec Dieu. Pour moi, ça revient beaucoup à ça. Mm-hmm. Quand tu te rapproches de Dieu, dans l'intimité, tu le connais davantage, tu lis sa parole, tu viens qu'à... La vraie joie dans la vie, c'est de faire ce qu'il te demande.
Oui.
Au-delà de toutes les voitures, de toute la prospérité, la bénédiction, c'est éphémère. Faire la volonté de Dieu dans ta vie, c'est ça qui te produit la vraie joie et qui fait que tu as envie de vivre ta vie. Pour moi, c'est ça. Et puis, tu vois, même ma femme et moi, on est dans des saisons où est-ce qu'on prend des décisions. Et puis, c'est tellement glorieux de pouvoir suivre Dieu. Même si ça coûte quelque chose, dans l'instant même, c'est rien dans l'éternité et de la joie qui t'attend lorsque tu vas le servir de tout ton cœur. Mm-hmm. C'est rien. Et puis oui, parfois, c'est plus difficile de le faire, mais je reviens à ce que j'ai dit. Ça peut sembler plus difficile de renoncer aux choses qu'on a, mais lorsque tu connais ton Père dans l'intimité, ces choses-là, ils deviennent comme ça devient, c'est rien en fait. Mm-hmm. Pour moi, c'est ce que j'ai vécu, hein. Même par rapport au péché dans ma vie, de plus en plus que j'ai connu Dieu, surnaturellement, j'ai plus voulu toutes les choses dans ma vie qui étaient là, qui pourrissaient la vie.
Ouais.
C'est l'intimité que j'ai eue qui a fait que j'ai désiré me séparer des choses du monde. Et c'est l'intimité avec lui que j'ai maintenant, qui est plus grande, qui fait que je veux juste le servir lui et lui seul davantage. Mm-hmm. Et tu vois, ça se passe comme ça. Mais c'est pas un message qui est à suggérer. C'est pas comme Mika a dit, si ça te tente, si tu sens que si... C'est comme qu'il a dit, il a dit aux disciples, hein? Allez aux disciples, aux apôtres, allez chasser des démons, guérissez les malades. C'est quand la dernière fois tu fais ça?
Jésus ne dit jamais s'il te plaît.
Non, c'est ça. Et puis, non, mais je suis sérieux, il avait dit dans Luc 10, aux 70 autres disciples, allez, faites ces choses. Mm-hmm. C'était pas une suggestion. Et c'était pas à des apôtres ou à des gens. Jésus était clair, fais ces choses-là. Tu es mon disciple, tu dois faire ces choses-là. Mm. Et puis ça, c'est un message qui est dilué davantage aujourd'hui parce que c'est des messages qui vont plus plaire à la chair ou c'est parce qu'on sait pas comment manifester la puissance ou on veut pas mourir à soi-même quand on va faire ces choses-là. On a peur d'avoir là des imbéciles ou quoi que ce soit. Jésus a dit, t'es mon disciple, tu fais ces choses-là. Oui. Et puis ça, c'est un message qui est radical, mais c'est ce que Jésus a dit.
Mm.
C'est la parole de Dieu.
Tu veux essayer de parler? Tu t'étouffes?
Ouais, j'ai un petit chat dans la gorge. Mais j'aimerais dire plus loin que disciple. Ce n'est pas juste... Les gens se disent, bon, moi, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas disciple. Ce n'est pas ça. L'apôtre Paul va dire que ce qui nous sauve, c'est si tu confesses Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur de ta vie. Pierre dira, notre Seigneur et notre Sauveur. Mm-hmm. Donc, le jour où nous nous convertissons, nous lui donnons notre vie, donc nous faisons de Jésus l'autorité sur notre vie, le Seigneur. Ouais. La Bible dit qu'on meurt à ce moment-là. Mm-hmm. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais on vit. C'est Christ qui vit en nous. C'est à travers le Seigneur qu'on vit, parce que finalement, il est devenu le jour de notre conversion, le Seigneur de notre vie. Mm-hmm. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se disent, bon, ben, moi, Jésus, c'est mon Sauveur. Mais ils ne sont plus dans cette dimension où leur cœur était touché. Ils ont donné leur vie à Jésus pour faire de Jésus leur Seigneur. Mais Jésus, il est mon Sauveur et mon Seigneur, disait Pierre. Et quand le Seigneur va voir qu'il est réellement le Seigneur de notre vie, il nous laisse beaucoup de liberté tous les jours. Il nous laisse faire ce qu'on veut. Mm-hmm. Mais à un moment donné, le Maître, le Seigneur vient. Ouais. Et il vient en nous appelant à faire quelque chose. C'est le thème de l'émission. Mm-hmm. Il va nous dire de faire quelque chose. Et c'est là que tout se voit. C'est là qu'aux yeux de Dieu, tout se joue. Ok, tu fais ta vie, je te bénis, tu es bien, mais à un moment donné, à plusieurs moments donnés, je viens et je te dis, c'est vrai. Maintenant, suis-moi dans telle direction, fais ça. Et là, nous on dit, bah, comme je l'ai dit, permets-moi d'abord, ou on trouve des échappatoires. Oh, Dieu m'a-t-il réellement dit ? Alors qu'au fond de nous, on sait, la parole nous a touchés, la prédication nous a touchés, cette émission nous a touchés, on sait ce que Jésus nous demande, la réalité. C'est qu'on ne fait pas de lui, ou on ne fait plus de lui, j'aimerais dire, le Seigneur de notre vie. Il faut se souvenir de l'engagement qu'on a pris au début. Ce n'était pas juste Seigneur Jésus, mon Sauveur, c'était Seigneur Jésus, mon Sauveur, et mon Seigneur, ma vie ne m'appartient pas. Donc face à l'appel de Dieu, le prix à payer, c'est le même prix qu'on a décidé de payer le jour où on s'est donné au Seigneur, c'est le prix de notre vie. Mmh. Elle n'est plus à nous.
Amen.
Donc, ce qu'il nous demande de faire, on doit poser un acte d'obéissance et obéir.
Ça, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est important de mettre le doigt dessus. Dieu nous connaît, il sait où est-ce qu'on est rendu dans la vie aussi. Et ça, c'est important de le faire. Dans cette histoire-là de ce jeune homme-là, c'était tout de suite, bon, il est allé vers Jésus, ça s'est passé comme ça. Mm-hmm. Pour d'autres personnes, c'est important de le dire. Par contre, il ne faut pas passer la vie à côté. Hein? Mais tu te donnes au Seigneur, tu progresses dans ta foi. Et là, oui, en effet, à un moment donné, Dieu, comme tu l'as dit, Mickaël, il vient frapper, là, il dit, il est temps que tu fasses ça. Mm-hmm. Il est temps que tu te déménages, il est temps que tu fasses ci ou ça. Et puis, il sait où est-ce qu'on est rendu. Et vraiment, il est rempli d'amour et de bonté. Quand il nous demande quelque chose, c'est parce qu'il le sait qu'on est capable de le faire. Mais en fait, c'est nous qui résistons à l'appel parce que ça nous coûte. Souvent, ça va être du matériel. Mm. Mais il sait qu'on est rendu à un endroit où est-ce qu'on est capable d'accomplir cette chose-là. Il ne viendra pas cogner ou frapper à la porte si tu ne serais pas capable. Puis il est gracieux dans ces saisons-là. Il sait quand il veut nous demander quelque chose. Et là, c'est là qu'il faut mourir à soi-même et vraiment dire oui.
Exactement.
Ouais.
Souvent, on a été impressionné par le renoncement de certaines personnes, l'obéissance de certaines personnes, disant « Ah ouais, c'est vraiment un homme de foi, c'est vraiment une femme de foi. » Mais j'y pensais dernièrement et je me disais, en fait, il n'y a aucune gloire à avoir été obéissant. C'est juste normal. C'est juste la base de ce qu'on doit faire. Obéir. On est sur cette terre pour lui obéir et faire ce qu'on doit faire.
L'apôtre Paul a donné la définition du chrétien. Mmh. Il a dit « Le chrétien, ce n'est plus celui. » Et si maintenant, si Christ est mort pour nous, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. C'est ça, être un chrétien.
Amen. Je vais me permettre la conclusion, Evelyne.
La conclusion, mais en fait, nous n'avons pas encore fini.
Oui, mais c'est la rubrique d'Annabelle, on peut la manger.
Un homme de réveil qui a dit que...
Tu vois, Annabelle, d'être une seule femme sur le plateau, c'est compliqué. Bah, il y a moins.
C'est ça, le privilège d'être présidente.
Un homme de réveil a dit, on ne va pas tous mourir persécutés à cause de l'Évangile. Mais on devrait être tous prêts à le faire.
Mmh. Ça.
Très beau mot de conclusion.
Et c'est celui qui a dit qu'on souffrira pas tous, mais qu'on devrait tous avoir la mentalité de la souffrance.
Ah, peut-être. Finalement, oui, c'est le même.
Tu as dit ce que j'ai dit en une phrase.
Tu me dis, c'est ça.
Mais c'est vrai.
C'est ça.
Donc, le renoncement, on a, je pense, bien creusé le thème, on a bien compris.
Tu peux dire autre chose ?
Non,
c'est bien, c'est bien.
Et en fait, tu l'as dit, Frank, avec ta femme, vous êtes dans une saison justement de ce type-là, et on voit que c'est souvent des moments qui se passent en couple aussi. Il y a des décisions, une fois qu'on est marié, le renoncement implique son épouse, son époux, parce que on ne fait qu'un, et puis on œuvre pour le Seigneur ensemble. Et Annabelle, tu vas nous donner des points pour être justement ces couples de foi qui n'ont pas peur de renoncer à tout dans la rubrique « Famille ». Donc Annabelle, tu t'es fait manger 3 minutes sur ton temps, mais ce n'est pas grave, je suis sûre que ta rubrique sera formidable.
Oui, là on a mis la barre haute dans cette première partie de l'émission. Donc,
Tu revois tes points,
ouais, j'en revois mes points. Mais je pense que c'est important aussi de parler en tant que couple du prix à payer, parce que quand on est en couple, à deux, on peut tellement aller plus vite, on peut aller plus loin, mais je vois malheureusement que dans beaucoup de couples, le mariage, au lieu d'avoir été un lieu de bénédiction et d'épanouissement pour servir le Seigneur, est un lieu où finalement de confort et de ramollissement spirituel et de tiédeur. Or, on devrait être l'un et l'autre en train de s'encourager, se dire non, le Seigneur t'a parlé, on va le faire, mais on voit qu'il y a beaucoup de tensions, d'hésitations dans les couples et que malheureusement, il y a vraiment beaucoup de gens qui voient leur appel ou qui reprennent la parole que Jésus leur adresse, viens et suis-moi, un peu à la baisse. Oui. Bon, il a peut-être dit viens, et puis on rajoute un temps, on rajoute une condition parce que mon mari, parce que ma femme n'est pas prête à le faire, et ça amène beaucoup de frustration. Et j'aimerais prendre en fait l'exemple de Marie et Joseph. J'aime beaucoup le couple de Marie et Joseph. Même si, oui, on perd Joseph à un moment donné. Mais dans leurs jeunes années, Joseph était totalement présent. Et en fait, Marie et Joseph, pour moi, c'est vraiment un couple de foi, un couple avec une destinée totalement atypique et qui sortait des sentiers battus. Et s'ils n'avaient pas de foi, de courage, de ténacité, de vision, ça aurait été vraiment compliqué pour eux. Et ils avaient la responsabilité sur cette terre de Jésus en tant qu'enfant dans sa chair, Marie, de porter Jésus et Joseph de protéger sa famille. Donc, Marie et Joseph, pour moi, comme j'ai dit, c'est vraiment un couple de foi. Et on voit qu'ils ont chacun fait leur part. Ils ont premièrement répondu à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu, c'est même en couple, c'est que l'un et l'autre, de façon individuelle, on doit le faire. Oui. Parce que comme j'ai dit, ça va tout le temps créer un déséquilibre. Et puis, on voit que Marie a reçu la visitation de l'ange et elle a dit « Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », et l'ange la quitta. Ça, c'est ce qui s'est passé pour Marie de son côté. Et puis du côté de Joseph, en fait, quand il a appris que Marie était enceinte, il a pensé la quitter, mais de la bonne façon. Mais là, un ange aussi lui est apparu, et Joseph a dit... Non, Joseph n'a rien dit, mais attendez, je suis perdue. Ah voilà, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Parce que l'ange lui avait dit, ne quitte pas Marie. Et là, on voit que Joseph a aussi fait sa part. Il a dit, ok, Marie a eu sa visitation, Marie enceinte, on comprend pas trop comment, pourquoi. Mais apparemment, c'est la volonté de Dieu et je réponds à l'appel de Dieu. Marie a répondu à l'appel de Dieu, Joseph a répondu à l'appel de Dieu. Et à ce moment-là, il a pris sa femme chez lui. Et à ce moment-là commence leur destinée commune où ils vont servir avec foi le Seigneur dans leur appel qui était totalement spécifique. Et moi, je me rappelle qu'une fois, on était allé voir un homme de Dieu, je l'ai déjà raconté, mais on avait prié et tout ça. Moi, j'avais trouvé ça un petit peu long et visiblement, il l'avait ressenti, il l'avait compris. Et il m'a dit, bah peut-être. Et il m'a dit... ma fille, ne sois pas la jambe courte de ton mari.
On aime beaucoup.
Arrête.
Victoire.
Mais sur le coup, ça m'a. Je me suis dit, waouh, ça calme. Mais ça m'a encouragée en fait. Je ne dis pas. Ma fille, ne sois pas la jambe courte de ton mari. Et parce que on marche ensemble. Et puis si t'as une jambe courte, si ta femme est ta jambe courte, tu boites et t'es ralenti.
Oui, c'est ça, tu trébuches.
Voilà, exactement. Et
pourquoi vous avez l'air si content qu'elle raconte cette anecdote? Vous êtes méchant.
Parce qu'elle a bien changé depuis.
Mais comment tu l'as vécu pour de vrai? C'était
difficile, sur le coup, ça m'a un peu calmée, mais d'un autre côté, je me sentais déjà un peu comme une jambe courte de toute manière. Mais vraiment, sa parole, et peut-être que si quelqu'un d'autre me l'avait dit avec d'autres motivations, peut-être que ça aurait produit autre chose. Mais vraiment, sa parole était, je crois, inspirée de Dieu. Et ça a comme mis en moi une alerte, une responsabilité. Je me suis dit, non, je ne veux pas être la jambe courte de mon mari. Je ne veux pas être celle qui va ralentir. Et j'ai pas du du tout à ce moment-là ressenti un sentiment de condamnation, mais au contraire, j'ai eu comme une soif et une responsabilité. Je me suis dit non, je veux grandir et ce sera pas moi la jambe courte. Mais j'ai très très souvent repensé à cette parole. Et quand on a été dans certaines saisons, je me suis dit ah non, 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 je ne serai pas la jambe courte. Non, je refuse.
C'est un bon garde-fou.
Comment ?
C'est un bon garde-fou.
Exactement. Donc ne soyez pas le fou, j'allais dire. Ne soyez pas la jambe courte de votre femme ou de votre mari. Autre point, c'est d'avoir peur ensemble, d'accepter que dans notre destinée, il y a des moments pour répondre à l'appel de Dieu. Il y a des moments de peur, il y a des moments de crainte, il y a des moments où on ne sait pas quoi faire ni comment le faire, ça nous dépasse. Et c'est pas parce que on a peur que c'est fini. C'est pas parce qu'on a peur que il faut s'arrêter. C'est de ne pas avoir peur de la peur, parce que l'appel est grand et puis c'est normal en fait. Il peut y avoir des moments de remise en question où on va trembler ensemble, mais un couple de fois va trembler ensemble mais va résister à la peur et va dominer sur la peur comme Marie et Joseph l'ont fait, parce que déjà leur début d'histoire est atypique, mais ça continue après. Dans Matthieu 2:13, l'ange du Seigneur apparut encore à Joseph dans un rêve. Il lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » C'est quand même...
C'est stressant.
Ça peut faire un peu peur, c'est un peu flippant comme genre de parole. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu parle, que Dieu protège. Et c'est ça qui les a soutenus, c'est ça qui les a encouragés. Et on voit que Joseph, tout simplement, comme la première fois, qu'est-ce que fait Joseph? Il se lève, il prend sa femme, il prend l'enfant et il part, il obéit. Mais j'imagine qu'il devait y avoir quand même une petite émotion quand même.
C'est sûr.
Et après, la suite nous dit qu'il y a eu des cris, les enfants sont morts et tout ça. Mais t'imagines, tu t'entends ces choses-là, tu te dis tous les enfants étaient tués, on a échappé à ça. Tu te tiens la main et tu te dis mais merci Seigneur parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Et pour eux, leur appel spécifique, on comprend que c'était Jésus. Mais pour nous, notre appel spécifique, c'est de répondre aujourd'hui à l'appel que Jésus nous fait. Et c'est de protéger cet appel, de le garder. Et que là où Dieu nous dit d'aller, on va le garder, on va l'amener, on va le porter, on va le protéger. Même s'il y a tout un tas de craintes et d'intimidations. Et j'imagine tous ces pleurs, tous ces cris, quelquefois, c'est ce qu'on peut entendre et qui vient nous intimider. Mais la mort n'a pas touché le foyer de Marie et Joseph. Il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, il y a eu sûrement des émotions. Mais la mort n'a pas touché leur foyer. Et puis, une deuxième fois encore où Joseph a eu un rêve. Est-ce qu'il a eu un rêve ou il a juste vu un ange ? Bon, en tout cas, il dit, l'ange lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Et que fait Joseph encore une fois ? Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère. Il n'oublie jamais la mère. Il prend toujours le petit enfant et la mère. C'est important, on parle d'un couple de foi. Et il part et alla dans le pays d'Israël. Mais cependant, quand il apprit que Archélaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Et averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Et là, j'avais rajouté un point, c'est en rapport ou pas en rapport, mais en tout cas, je veux le dire, c'est marcher ensemble dans le désert, dans le sens où Marie et Joseph se lèvent à chaque fois, ils partent au milieu de la nuit, ils s'en vont, ils prennent leurs enfants, ils prennent leur fils, et ils sont là dans une situation un petit peu d'urgence, et ils vont s'installer ailleurs. Ils partent vraiment, ils s'installent. Là, il dit, je vais à Israël, finalement, ah non, mince, c'est encore dangereux, finalement, on va aller s'installer à Nazareth. Est-ce qu'aujourd'hui, on imagine ce que ça peut impliqué. Et imaginez la vision qu'il devait avoir. Il devait être quand même fort les deux ensemble. Si Marie avait dit non, moi j'en ai marre de déménager. Écoute Joseph, là tes rêves, etc. C'est pas possible. On déménage, on recommence à zéro à chaque fois. Mais Marie n'était absolument pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si Jérémie a un rêve. Il dit pars aujourd'hui de ce pays, prends ta femme, prends ta fille et partez au Zimbabwe. Et là, on est en route pour aller au Zimbabwe. Et là, finalement, il a un rêve. Non, finalement, faites un crochet. Et puis, allez vous installer au Liban. Au Corée du Nord. Corée du Nord.
C'est un bon endroit pour se réfugier. Très bonne idée.
Exactement.
Mais toi, par contre...
Mais vous imaginez, tu prends ta famille, tu prends quelques affaires, tu t'en vas, et là, tu dois bouger, et t'es vraiment dépendant de la voix de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est pas si il me plaît, c'est pas « Ah, bah, Joseph n'a pas dit, permets-moi d'abord, bah, écoute, permets-moi d'abord de faire un peu de commerce, pour qu'au moins on puisse renflouer peut-être les comptes, permets-moi nous installer un peu, tu vois, ma femme est fatiguée, ou Marie, et permets-nous d'abord de profiter un peu de notre vie de famille. » Non, vraiment, l'appel de Dieu était très clair et ils allaient là où Dieu leur demandait d'aller. Ils partaient aussitôt dans la nuit. Hop, go, on y va. Mm-hmm. Donc, marcher ensemble dans le désert, parfois, c'est marcher ensemble dans des saisons où on n'est pas arrivé à la destination finale. On ne connaît pas toutes choses et il y a des moments de sacrifice, mais on marche ensemble dans le désert et on marche ensemble dans la foi et non pas dans une attitude de murmure. Bon, on n'a qu'à faire demi-tour comme le peuple d'Israël, on n'a qu'à retourner en Égypte, mais vraiment avec cette attitude de foi. Et donc, l'encouragement que je voudrais donner à vous, les hommes, les maris qui suivaient cette émission, c'est comme Joseph, soyez responsables, soyez forts, soyez vaillants. Quand Dieu vous parle, prenez femme et enfant et allez-y. Et pour vous, les femmes, si Dieu a parlé à votre mari, si Dieu vous a parlé même en tant que couple, en tant que famille, ayez confiance en Dieu et suivez, partez, prenez femme, prenez mari. Suivez Marie et prenez vos enfants et dites-vous que vous ne suivez pas seulement un homme, une idée d'un homme, mais que vraiment vous suivez la parole de Dieu qui vous a dit « Lève-toi, va et quitte ton pays » si c'est le cas dans votre vie. Dernier point, ouais, c'était les sacrifices financiers et qui ne sont pas des moindres parce que comme tu l'as dit, Frank, souvent il y a des sacrifices qui sont matériels, un prix à payer qui va être matériel. Et aujourd'hui, on a un petit peu l'image du couple, un couple épanoui, un couple qui va réussir, c'est un couple qui a une bonne situation, des bons salaires, qui a de l'argent de côté, une belle maison, des enfants propres, bien habillés, une belle voiture, on part en vacances, on fait des rénovations. Bref, c'est un petit peu l'image du couple qui a plus ou moins bien réussi, une situation stable. Mais en fait, selon Dieu, c'est pas du tout ça la réussite. On peut vivre comme ça, mais comme Michael l'a dit, le moment où Dieu nous dit c'est le moment, va, quitte. Est-ce qu'on est prêt à quitter voiture, pays, pas enfant forcément, mais maison, etc., travail, et notamment un travail, il y a beaucoup de gens, beaucoup de couples, c'était le temps d'aller servir Dieu, c'était le temps de quitter un emploi, le temps de quitter la sécurité de l'emploi pour pouvoir servir le Seigneur, et c'est tellement dommage de rester dans un emploi, un poste de fonctionnaire, parce qu'il y a la sécurité du travail, t'as même pas de possibilité de promotion, t'as rien du tout, t'as aucun avenir, c'est juste la sécurité qui te motive et t'es là en train de juste de mourir à petit feu sur ton siège, sur ton fauteuil tous les jours de ta vie. Tu vas de rénovation en rénovation, t'as fait ta cuisine 5 fois, t'as refusé de partir en mission parce que ah oui mais j'avais ma maison, ta maison tu l'as refaite 5 fois, et il y a tout le temps cette lassitude, il y a tout le temps ce désir de vivre plus. Et puis on va en tant que couple, on peut d'un seul coup on se regarde, tu sais, on s'ennuie, peut-être que finalement c'est notre couple qui va pas bien, mais un couple qui fait pas la volonté de Dieu, c'est un couple qui est en train de moisir sur lui-même, en fait, finalement, parce que il manque la vie, il manque la vie de Dieu. Et oui, quelquefois, il y a un peu de risque, quelquefois, il y a un peu de folie, mais c'est aussi ça qui rend la vie excitante. Et il y a des gens, malheureusement, on voit un couple dans la Bible qui s'est mis d'accord, mais sur de la mauvaise façon, Ananias et Saphira. Dans Actes 5, ça nous dit « Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie de prix en accord avec sa femme. » Et autant un couple qui marche dans la foi, un couple de foi, c'est un couple qui va s'accorder pour la foi, un couple qui va s'accorder pour croire, qui va s'accorder pour aller de l'autre côté, pour marcher sur l'eau, pour faire des sacrifices, pour continuer de semer dans des temps difficiles, pour continuer de croire alors que vraiment toutes les circonstances autour nous disent « non, c'est fini ». Continuer de persévérer, mais il y a aussi des couples qui se mettent d'accord pour garder une partie de leur vie. Et eux, ils ont gardé une partie d'argent, mais des couples se mettent d'accord pour garder une partie de leur vie. On garde au moins notre retraite. Au moins notre retraite, on va aller s'installer dans tel pays. Non, c'est pas la peine de prier, imagine que Dieu soit pas d'accord, c'est notre rêve. On a travaillé toute notre vie pour ça. Ouais, voilà. Et ça peut être des petits morceaux dans notre vie, des petites zones dans notre vie que en tant que couple, on décide de garder, qu'on ne remet jamais devant le Seigneur. Et leur fin est tragique. Ils sont morts tous les deux. Et comme je disais, on n'est pas obligé de... Peut-être qu'on ne va pas mourir foudroyé comme ça, mais il y a quelque chose qui meurt. Et c'est tellement triste, parce que c'est triste pour moi en tant qu'individu si cette chose meurt, mais c'est surtout triste pour le monde dans lequel je vis. Et c'est triste pour celui qui m'a envoyé, de voir que cette semence, que ce trésor qui m'a été confié n'a pas été utilisé, parce que j'ai d'abord voulu vivre mon couple. J'ai d'abord voulu être un couple dit épanoui. Mais avant d'être un couple dit épanoui, je veux être un couple de foi. Et puis... ici, par exemple, à MCI TV, la plupart des couples ont dû, à un moment donné, déménager, quitter leur pays, quitter leur famille. Certains ont quitté des emplois, la sécurité de l'emploi. Et ça, c'est un pas de, ça, ce sont des pas de foi. Mais pourquoi? Pour servir le Seigneur, pour répondre à l'appel de Dieu. Et c'est impossible de mener notre petite vie tranquille, un petit train-train, etc., ne pas être dérangé. Si on veut faire la volonté de Dieu, il y a un prix à payer. Ce prix à payer, on peut le payer en couple, et ça coûte deux fois plus cher, mais ça rapporte deux fois plus, et c'est tellement une grande joie de servir le Seigneur en couple.
Amen. Ouais. Merci beaucoup, Annabelle. C'est très inspirant, ta rubrique, pour les couples qui nous écoutent. Oui.
Je pense qu'on peut se permettre de déborder un peu sur le chrono pour continuer la rubrique.
Je sentais que tu avais beaucoup de choses à
permets-nous,
dire.
Permets-nous de...
La parole t'est offerte.
Non, mais...
Ben non, vas-y.
Ok, d'accord.
Ben oui, t'as envie de
Vous
parler.
Avez quelque chose à dire?
Oui.
Allons-y, débordons.
Vas-y, chérie.
Non, mais je trouve ça formidable. Et pendant qu'Annabelle disait, je me disais que, ok, on confesse beaucoup de choses de notre vie, on dit qu'on est des gens de foi, etc. Mais Abraham, sa foi fut éprouvée par des œuvres, en fait. Et Dieu mit à l'épreuve sa foi. Et il l'a mis à l'épreuve en disant, donne-moi ton fils, Isaac, etc. Et c'est au moment où en fait, on a cet appel de Dieu, que la sincérité de notre foi, elle est mise à l'épreuve. C'est là que, réellement, on va voir si on est dans une foi sincère et authentique envers Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ou pas. Mm. Et c'est vraiment là. Et Dieu va éprouver notre sincérité de la foi. C'est ça. Si on vous dit vraiment croire, alors il faut obéir.
Je voulais juste encourager, moi, surtout les jeunes qui vous regardez l'émission actuellement, l'importance de répondre à l'appel de Dieu le plus tôt dans notre vie, en fait. Parce que beaucoup vont se dire, ben Dieu, je le sais, admettons, un jeune homme, il sent qu'il doit être appelé à être pasteur, puis il dit, ben j'ai une belle opportunité d'avoir un bon travail, tout ça, je vais construire ma vie, je vais m'acheter ma maison, je vais faire toutes ces choses-là. Et en fait, il construit pas sa vie sur la bénédiction de Dieu, mais sur la bénédiction, entre guillemets, qui vient de l'homme, qui de ses pensées, sa propre volonté. Et là, le jour où est-ce qu'il va vouloir répondre à l'appel de Dieu, ben, il va devoir renoncer à certaines choses parce qu'il va avoir un prix à payer. Mm-hmm. Et puis ici, dès le début, dit oui Dieu, je te suis, je construis ma vie sur la bénédiction, sur les moyens financiers que tu vas me donner entre mes mains, je vais faire les choses de la bonne façon. Sa vie, ben, il va éviter beaucoup de dégâts. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se font prendre dans des pièges à cause des travaux, à cause de l'argent qui rentre. Et là, ils disent, ben, si Dieu m'appelle, je vais peut-être être pauvre. C'est pas le but de Dieu, évidemment. Mais il y a un prix qu'il a à payer. Et puis, parfois, c'est vrai, il y a un prix à payer, des fois, pour un certain temps, une certaine saison. Mm-hmm. Dieu veut toujours bénir, il va pourvoir aux besoins, il l'a promis. Mais c'est vraiment de répondre le plus vite possible à l'appel de Dieu. Et pour beaucoup de gens, la bénédiction de Dieu, même un travail, c'est une bénédiction pendant une saison. Et puis là, il dit, fais tel truc. Et cette chose-là devient une malédiction parce que ça te retient de rentrer dans la bénédiction de Dieu et dans le plan de Dieu pour ta vie. Fait que c'est important de discerner et faire la différence et de dire oui le plus tôt possible. Parce que ta vie, tu vas juste construire là-dessus. Et en fait, tu vas avoir une telle joie dans ta vie. C'est incroyable.
Ouais. Et il y a une bonne nouvelle aussi dans tout ça, avec le prix à payer. Bon, on en a un peu parlé au départ. Mais un jour, Pierre, devant ce prix à payer, il pose une question à Jésus. Et Jésus dit à Pierre et aux autres disciples, en les rassurant, en les encourageant, il leur dit, il n'y a personne qui aura quitté à cause de moi des mères, c'est des ça. Enfants, des terrains, des maisons, et qui ne recevra dans ce temps présent, mais aussi dans le siècle à venir, des maisons, etc., au centuple.
Ouais.
Et ça, on sait que bah, Dieu, il est Seigneur, mais il est un bon Seigneur.
Ouais.
Il est bon, et si on a perdu... payer un prix quelque part, on sait qu'il y aura une récompense.
C'est ça, tôt ou tard, il est fidèle, ça c'est sûr.
On le voit dans l'exemple d'Abraham et Isaac que tu viens de citer, chérie. C'est vrai qu'Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Réellement, il était prêt à le faire et il l'aurait fait, mais Dieu l'en a empêché et Dieu lui a laissé son Isaac. Et souvent, en fait, dans cette vie de renoncement, Dieu ne prend pas plaisir à nous voir renoncer à tout. Dieu s'en fiche pas mal qu'on renonce à notre maison, à notre travail. C'est pas ça qui est important. C'est vraiment une histoire d'attachement de cœur, en fait. Et puis parfois on peut se dire finalement j'aurais pu garder ça, j'aurais dû faire ça, mais en fait quand on renonce, Dieu nous donne et souvent beaucoup mieux. Et puis après coup on réalise qu'en fait on a pris la bonne décision. Oh, merci à tous pour cette émission sur le renoncement. Je pense que ça a travaillé fort à la maison. On se retrouve demain, notre thème sera Entre dans sa présence et nous aurons une invitée, Dana Moana, qui fera le conseil du coach. Donc ne manquez pas cette émission et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.